Épître aux Galates, chapitre 3.
Lecture de la parole. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint crucifié au milieu de vous? Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l'Esprit, achèveriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Comme Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice. Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Or l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi toutes les nations seront bénies, de sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Or, que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que le juste vivra de foi. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Frères, je parle selon l'homme, personne n'annule une alliance qui est confirmée, même celle d'un homme n'y ajoute. Or c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. Il ne dit pas « et aux semences », comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta semence, qui est Christ. Or je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans après, n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. Car si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse, mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la semence à laquelle la promesse est faite, ayant été ordonnée par des anges par la main d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Mais Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Car s'il avait été donné une loi qui eût le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi. Mais l'Écriture a renfermé toute chose sous le péché, afin que la promesse sur le principe de la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. Mais, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle, ni femelle. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse.
Lecture de l'étude. La première section du chapitre est consacrée au contraste entre les principes de la loi et ceux de la foi, non précisément de la promesse, mais de la foi. La partie suivante prend le sujet de la promesse et montre les relations mutuelles de la loi et de la promesse. Mais les premiers versets sont consacrés à un domaine plus étendu, car il faut nous rappeler que la foi a une variété de sphères et d'opérations à part la promesse de Dieu. Sans aucun doute, les promesses appartiennent à la foi, mais alors la foi peut embrasser, et cela pour son profit, beaucoup plus que ce qui fut, non pas révélé, mais promis, car quand nous parlons de promesses, il ne s'agit pas seulement des bénédictions générales dont Dieu parle, comme sa grâce envers des pécheurs coupables, mais de certains privilèges définis qui furent assignés d'avance à Abraham et qui sont maintenant oui et amen dans toute leur force spirituelle en Christ, des promesses qui seront accomplies dans un temps à venir, dans la lettre aussi bien que dans l'esprit, lorsqu'il plaira à Dieu de convertir son ancien peuple. Alors il y aura le merveilleux déploiement de toute bénédiction céleste et terrestre, accomplie par la même glorieuse personne qui est la source et le centre de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la partie du chapitre qui nous occupe, il n'est pas tant question de promesses que de la manière dont la bénédiction est obtenue. Les Galates avaient été amenés depuis peu sous l'immense privilège de la prédication de l'apôtre à jouir de la puissance et de la bénédiction du christianisme. Et maintenant, chose triste à dire, ils étaient en danger de se détourner et ils avaient perdu le sentiment de la grâce dans leur âme. Par quels moyens avaient-ils à l'origine reçu de Dieu la bénédiction ? Cette question a été soulevée par le dernier verset du chapitre précédent. En effet, l'apôtre y insiste fortement sur le grand point que le Saint-Esprit explique dans cette épître, savoir que ce n'est pas la loi, mais la grâce de Dieu en Christ, qui donne gratuitement toute la bénédiction dont le chrétien jouit. Il nous avait déjà conduits jusqu'à ce point que, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Il a montré comment la chose s'était passée dans son propre cas pour lui qui était juif et qui, par conséquent, était nécessairement sous la loi de Dieu, d'une manière dont aucun gentil comme tel ne pouvait l'être. Comment il se faisait qu'il en avait été délivré et qu'il pouvait maintenant adopter un langage si différent? Il dit: « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. » Ainsi donc, à un point de vue, il parle de lui-même comme étant mort, et à un autre comme étant vivant, et cette vie dans laquelle il vivait maintenant, c'était Christ en lui. Quant au vieux moi, il le traite comme une chose morte. Tout ce qui constituait son caractère naturel, le vieux moi qui était sujet à la loi, il le traite comme crucifié. La raison en est évidente. Quelle est la source de l'énergie d'un homme? Et quel est le but de toute chose dans ce monde? Qu'est-ce qui se mêle à toutes les pensées et à tous les désirs et qui les corrompt? C'est le moi. Que vous considériez le courage ou la générosité ou la sollicitude pour sa famille, pour son pays et pour sa religion, toutes ces choses s'étaient trouvées en Paul avant sa conversion. Mais il y avait une chose qui avait une racine plus profonde que tout le reste, c'était le moi. Néanmoins, tout ceci avait été mis à mort à la croix de Christ, qui jugeait tout son être moral comme étant fondé sur ce qui était corrompu, c'est-à-dire sur lui-même. Le caractère de Paul avait été atteint jusque dans ses dernières profondeurs. Désormais, il part du principe qu'il en a un autre pour sa vie, Christ lui-même, et tandis qu'il se trouvait entré dans son amour et accomplir sa volonté, c'était Christ comme un objet devant lui qui était, par le Saint-Esprit, la puissance de la vie en lui. Et ce n'est pas là une chose particulière à quelques-uns. Au contraire, Christ est la vie de tout chrétien, mais il se peut qu'elle ne soit pas toujours manifestée. Vous pouvez trouver le vieil homme qui se manifeste dans l'orgueil, la vanité, la recherche de ses aises ou la force de vieilles habitudes. Quand il en est ainsi, c'est naturellement qu'on a permis à la vieille nature de se montrer de nouveau, parce que l'âme n'a point été occupée de Christ, ni exercée dans le jugement de soi-même. Il ne saurait y avoir une chose telle que Christ mort en nous, pour ainsi dire. Mais lorsque, pratiquement, nous ne vivons pas de Christ, la nature qui amena Christ à la croix éclate bientôt et se trahit dans nos voies. Voici le point auquel l'apôtre était arrivé. C'était Christ qui vivait en lui, non la loi. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Tout ce que la loi pouvait faire, c'était d'introduire sa puissance pour tuer sur tous ceux qui étaient sous elle. Il n'y avait pas, comme nous le voyons souvent de nos jours, des efforts pour garder la loi d'une manière spirituelle, maintenant qu'il était converti. Mais moi, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Cette expression « que je vive à Dieu » est bien sérieuse et pleine de beauté. La loi n'a jamais produit la vie dans une seule âme. Elle tue. Ici, au contraire, vous voyez Paul mort à la loi, mais vivant à Dieu sur un principe totalement différent. La question était, comment cette vie est-elle venue? Si tout ce que la loi fit a été d'apporter la mort consciemment sur son âme, ce qui se rapporte à la manière dont il passa par le sentiment de sa condamnation devant Dieu, quelle est la source de la nouvelle vie? Non pas la loi, mais Christ. Il en a fini avec la loi, en Christ, et il demeure libre, et même il a la vie en lui, afin de vivre à Dieu. Dès lors il dit « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi ». Nous voyons donc ici non seulement la source et le caractère de la vie nouvelle, mais qu'elle est entièrement soutenue par la chose même qui lui a donné l'existence. Comme ce fut la foi de Christ qui produisit la vie, de même c'est la foi de Christ qui en est la puissance. Une personne peut admirer ce qui est bon et aimable, mais c'est autre chose que de l'être soi-même. Et qu'est-ce qui donne la puissance? C'est de regarder à Christ, c'est que l'âme se nourrisse avec délices de Christ. Le moyen, objectivement, c'est Christ. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, c'est ce qu'il faisait. Car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. C'était leur principe que la justice était par la loi, et non pas uniquement en Christ mort et ressuscité. Alors, dit-il, s'il en est ainsi, Christ est donc mort pour rien. S'il était seulement question de la loi, tout ce qui aurait été nécessaire, c'est que Christ vive et nous fortifie pour garder la loi, mais il est mort. L'effet de leur doctrine, il insiste là-dessus, est que Christ serait mort pour rien, tandis qu'en réalité, c'est la chose essentielle, la voie même et la seule voie par laquelle la grâce de Dieu arrive jusqu'à l'âme. Ayant abordé cette grande vérité, il ne peut retenir un reproche brusque et saisissant, car il sentait par contraste combien grande était la perte qu'il faisait. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Dans le texte reçu, il est ajouté « pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ». Mais cette expression a été tirée du chapitre 5, verset 7. « Vous courriez bien, qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?» Là, elle est incontestablement insérée et à juste titre. Mais ici, les meilleures copies de l'épître l'omettent. Je ne fonde rien là-dessus, mais je constate seulement le fait en passant, parce qu'il est bon de le faire quand une occasion convenable se présente. Une des principales manières dont on a porté atteinte à l'Écriture a consisté à transplanter de quelque autre partie de l'Écriture un texte ou une phrase qui est parfaitement vraie à la place qui lui appartient. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous? Il est clair qu'il attire particulièrement l'attention sur la croix de Christ. non pas simplement sur son sang ou sur sa mort, mais sur sa croix. Et si vous examinez la parole de Dieu, vous remarquerez que la forme particulière dans laquelle la mort de Christ est présentée par le Saint-Esprit est invariablement en rapport avec l'emploi qui en doit être fait pratiquement. Dans toute l'Épître aux Hébreux, le point dont il s'agit, sauf une petite mais importante exception, n'est pas la croix mais le sang de Christ. Tandis que dans celle aux Romains, c'est surtout sa mort. Souvent, c'est le sang, mais la mort forme la grande base de l'argument. Pourquoi le Saint-Esprit dit-il ici, non pas simplement qu'il a versé son sang, et c'est la chose sur laquelle insisterait un chrétien heureux, dans la conscience d'être pardonné, mais crucifié au milieu de vous. Il n'y a rien d'inutile dans l'Écriture, il n'y a rien qui soit mis en évidence sans qu'il y ait pour cela une raison divine. La crucifixion couvre de honte l'homme et la chair plus que toute autre chose. L'effet de la mort de Christ, simplement, ne me présente pas l'homme comme étant tenu pour rien, ni l'entière indignité de la nature humaine vue devant Dieu. Quand l'apôtre veut montrer la séparation absolue du chrétien d'avec le monde, il dit « Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. » Or, il est clair que c'est là une manière bien plus grave et bien plus forte d'exposer le cas. Il n'y avait rien que le monde regarde autant comme une folie que la croix. Les philosophes méprisaient l'idée qu'une personne divine puisse mourir ainsi. C'était quelque chose qui semblait si faible et inutile. Ils n'avaient aucun sentiment juste de l'horreur du péché, ni de l'inimitié positive de l'homme contre Dieu, ni du jugement solennel et éternel de Dieu. La croix est le moyen pour faire tout ressortir. Mais il y a plus encore. La croix ne montre pas simplement ce qu'est la chair et ce qu'est le monde, mais elle prouve aussi que c'est une chose vaine de regarder à la loi pour amener la bénédiction, sinon d'une manière négative. C'est une chose réelle que la puissance de la loi pour tuer, mais elle n'a pas celle de vivifier. Christ seul fait cela. L'apôtre en appelle à leurs propres souvenirs et à leur propre expérience et leur demande de quelle manière l'Esprit avait été reçu, comment des miracles avaient été opérés et comment ils avaient reçu la bénédiction. Était-ce par la loi? Les Galates avaient été des païens, se prosternant devant la pierre et le bois, et c'était hors de cet état qu'ils avaient été tirés, non par la loi, mais par la connaissance de Christ. Cela présente la chose sous une forme aussi forte qu'efficace. Si Dieu avait trouvé bon d'employer la loi comme moyen, ne se serait-il pas servi de l'apôtre Paul pour la leur imposer? Mais il n'en est rien. Il avait placé Dieu devant eux dans son saint amour, dans son amour qui sauve. Dans son discours aux Athéniens, au milieu de l'Aréopage, il avait démontré la folie de leur idolâtrie. Il avait montré qu'il était contraire à leur propre raison même, dont ils se vantaient d'adorer ce qu'ils avaient fait. Il y avait au-dessus d'eux et autour d'eux, tous les jours et partout, ce qui indiquait le doigt de celui qui les avait créés. Et même un de leurs propres poètes avait dit qu'ils étaient sa race, ne faisant pas de Dieu notre race, et encore moins l'œuvre de la main des hommes, précisément ce que fait l'idolâtrie. L'apôtre s'adresse toujours à la conscience des hommes et montre la manière évidente dont le diable avait troublé leurs esprits et les avait détournés des faits évidents autour d'eux, qui auraient dû leur montrer un Dieu au-dessus d'eux et leur fournir des preuves de sa bonté bienfaisante. Puis il présente la vérité solennelle que Dieu appelle tous les hommes, en tout lieu, à se repentir, à s'incliner devant lui en reconnaissant leurs péchés, ce qui n'est qu'une autre manière d'exprimer la repentance, pour le motif qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice, non d'après la loi, mais entièrement en justice, la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'y a ressuscité d'entre les morts. C'est Christ qui est mis devant eux et non la loi. C'était la vérité habituellement présentée par l'apôtre. De même, dans le cas de ces Galates, il leur rappelle la manière dont ils avaient reçu la bénédiction. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? C'est un pas en avant important par rapport au chapitre précédent qui parle seulement de la vie. Mais le chapitre 3 introduit le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin du verset 15, vous verrez que, de même qu'il commence par l'Esprit, comme la preuve que Dieu répand sa bénédiction sur les hommes, de même il termine par l'Esprit. Le but de l'argument est de prouver que le Saint-Esprit est lié à la foi et non à la loi qui n'a qu'une malédiction pour l'homme coupable. Christ est notre vie et il donne l'Esprit. Il est important de distinguer entre la vie et l'Esprit. En effet, nous ne devons pas oublier que les deux choses sont tout à fait distinctes, même si lorsqu'une âme reçoit l'Évangile, il y a ordinairement, au même moment, réception de la vie et du Saint-Esprit. La vie nouvelle que le chrétien reçoit en Christ n'est pas Dieu, quoiqu'elle soit de Dieu, mais le Saint-Esprit est vrai Dieu. La vie du chrétien est une nouvelle créature ou création, tandis que le Saint-Esprit est le Créateur. Ce n'est pas parce que nous avons une vie nouvelle que nos corps sont faits le temple de Dieu, mais parce que le Saint-Esprit y habite. Ainsi, quand les chrétiens ne font pas convenablement ces distinctions, il est très possible qu'ils se servent de cette vie même comme d'une chose propre à nous consoler et à nous mettre à l'aise, nous conduisant à dire « Je sais que je serai sauvé », alors tous les exercices spirituels peuvent se terminer là. Combien souvent les âmes se contentent du repos qu'elles trouvent dans la satisfaction d'avoir la vie ou ne mettent en exercice cette vie que dans le désir d'amener des âmes à Christ. Mais quelque béni que soit un tel zèle, c'est une chose bien inférieure à l'amour pour Christ. De même que l'amour pour Christ est une chose inférieure à la jouissance de son amour envers nous. Et je crois que c'est là l'ordre véritable des choses dans l'âme des saints de Dieu. La grande chose que Dieu me demande, c'est d'admirer l'amour de Christ, d'y trouver mes délices et d'apprendre de plus en plus à connaître cet amour. Quel est l'effet ? L'amour pour Christ est produit dans la proportion même où je connais son amour envers moi. Qu'est-ce qui conduit à juger le moi et à le tenir en bride ? Qu'est-ce qui élève une personne au-dessus d'une marche et d'un but bas et terrestre ? C'est d'entrer dans la bénédiction de son amour. Étant rempli du sentiment de cet amour, nous aimons les âmes d'une manière différente, parce que nous les voyons dans sa lumière à lui, et que nous les envisageons d'après ses affections, et non pas simplement comme étant liés de quelque manière avec nous-mêmes. C'est là le vrai secret de toute puissance spirituelle, du moins dans ses formes les plus élevées. Prenez encore les légères souffrances que nous pouvons endurer à cause de Christ, les œuvres que nous pouvons faire pour lui, tout ce à quoi Dieu peut nous appeler. Dans toutes ces choses, la vraie bénédiction pour le chrétien, c'est de ne les pas séparer de Christ, mais d'avoir Christ lui-même comme la source et le modèle et la mesure de tout notre service, en sorte que tout notre service devrait découler de notre jouissance de Christ. Dans un sens, le culte est une chose qui tient plus au cœur de Dieu et devrait être une chose plus chère à l'enfant de Dieu que le service même, tandis que ce n'est pas une chose rare que de trouver des serviteurs zélés qui connaissent bien peu du véritable culte. Je dis cela non pour que nous servions Christ moins, mais pour que nous jouissions plus de lui et pour que nous le servions dans l'esprit qui vient de la jouissance de ce qu'il est, indépendamment de toutes les circonstances. Quelle est la base de cette mesure de jouissance? C'est une paix absolue et un entier repos de notre cœur en lui et en son œuvre. Nous voyons de quelle manière complète, en Christ, il est fait face à tout péché et chaque besoin de notre âme est satisfait. Nous sommes placés comme enfants en la présence d'un Père. On sait qu'un père emploie toutes ses ressources pour le bien de son enfant. Dans le pauvre pécheur, il y a le sentiment du besoin, et il faut que l'âme passe par là d'abord. Dans l'expérience de presque toute âme régénérée, il y a un état dans lequel il y a la vie, mais au milieu peut-être de la plus grande ignorance, toutefois avec un profond sentiment du péché. Ce n'est pas là, à proprement parler, l'état chrétien. Ce dernier, quand il est bien saisi, suppose le repos en Christ avec la conscience que tout m'est donné de Dieu en lui. J'ai reçu l'esprit d'adoption et non l'esprit de servitude. Ce n'est pas seulement que mon âme soit réveillée pour sentir le péché, mais le Saint-Esprit habite en moi. Et le résultat de l'habitation du Saint-Esprit, c'est que je sais que j'ai reçu cette plénitude de bénédiction de la part de Dieu. Dans le chapitre 2, comme nous l'avons remarqué, il est question de la vie, et maintenant, au commencement du chapitre 3, il parle de la réception de l'Esprit. Ce n'était pas simplement une affaire de jouissance, mais elle était aussi accompagnée de pouvoirs miraculeux. Lorsque, à cette époque, le Saint-Esprit était donné, il y avait des démonstrations extérieures dans lesquelles il se manifestait, qui n'ont pas continué dans l'Église. Il réunit ici les deux choses. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Êtes-vous si insensé? Ayant commencé par l'Esprit, achèveriez-vous maintenant par la chair, ou allez-vous être rendu parfait par la chair? C'était un processus par lequel ils espéraient être rendus parfaits, parce que la chair peut aisément être satisfaite d'elle-même. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Il ne veut pas les abandonner. Il ne veut pas supposer que l'ennemi va remporter sur eux une victoire telle qu'ils ne puissent pas être ramenés de cet état. Celui donc qui vous fournit l'esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Ceci se rapporte à Paul lui-même. C'était Dieu qui avait donné l'esprit, mais il opérait par des instruments. Par ceux qui avaient été employés à la prédication de l'Évangile, ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est l'ouïe de la foi qui est suivie du don de l'Esprit, après que nous avons reçu Christ. Mais il y a toujours une distinction entre les deux choses. Vous trouverez dans l'Écriture que la réception de l'Esprit était, au moins quelquefois, après qu'on avait cru en Christ. Prenez l'exemple des Samaritains. L'Esprit ne leur fut-il pas communiqué quelque temps après leur conversion? Et pour ne pas parler de Corneille, il en a été de même des disciples à Éphèse dans Actes 19. Ainsi, nous voyons bien des personnes qui sont remplies de joie en entendant l'Évangile, mais celles-ci passent et peut-être auront-elles à traverser plus tard de pénibles exercices parce qu'elles n'avaient pas réellement compris l'application de l'œuvre de Christ à leur âme. Elles ont tout simplement saisi la réalité d'une personne bénie et divine, qui est rempli d'amour, savoir le Seigneur Jésus. Mais alors, après qu'elles ont reçu cela, le sentiment de leur manquement surgit, et elles passent par bien des expériences où leur cœur est brisé et labouré. Je ne pourrais pas dire de personnes qui sont dans cet état qu'elles ont reçu l'Esprit de Dieu comme celui qui habite personnellement en elles, comme le sceau de la bénédiction qu'elles ont trouvé en Christ. Mais quand elles ont été amenées à se reposer sur lui, dans le sentiment complet de leurs péchés et de ce qu'elles sont, malgré tout cela, à se reposer dans la rédemption qui est en Christ, en sorte qu'en face de tout, sachant ce que Dieu est, ce que Satan est, ce qu'elles sont elles-mêmes, ce qu'est la loi de Dieu, toutefois ayant été justifiées sur le principe de la foi, elles ont la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. De telles personnes ont reçu le Saint-Esprit. Elles n'ont pas seulement la vie, mais elles ont l'Esprit de Dieu. Dans les premiers temps, cette distinction était bien clairement présentée, mais le même principe est, naturellement, vrai maintenant. Il n'y a pas une seule âme qui a regardé à Christ à laquelle Dieu ne donnera l'Esprit d'adoption, et elle sera ainsi introduite dans la plénitude de la bénédiction. Mais cela peut souvent avoir lieu sur un lit de mort, ce qui ne devrait pas être le cas d'un chrétien. Il y a de nos jours une si faible mesure de vérité prêchée même parmi de vrais chrétiens que les âmes n'ont pas la conscience de leur relation ni de la perfection de la rédemption. d'où il résulte qu'elles peuvent demeurer bien longtemps privées de la consolation et de la jouissance qui leur sont propres. Il n'en était pas ainsi de ces Galates, et l'apôtre fait allusion à leur pleine bénédiction. Ils avaient été aussitôt introduits dans la possession du Saint-Esprit. Ils l'avaient reçu sur le principe de l'ouïe de la foi, et je le prends dans le sens de la réception de l'Esprit en toute manière, non seulement en vue des miracles et des manifestations de puissance, mais plus encore le Saint-Esprit comme celui qui habitait en eux. Lorsque des âmes n'étaient pas nées de Dieu, mais n'avaient professé Christ que d'une manière extérieure, elles pouvaient recevoir l'Esprit pour des dons de puissance, mais non quant à la communion. Ainsi, en Hébreux 6, vous trouvez des personnes qui avaient été une fois éclairées et qui avaient goûté du don céleste et qui étaient devenues participantes de l'Esprit-Saint et qui avaient goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui pourtant étaient tombées. Il n'est dit nulle part qu'elles avaient été vivifiées ni qu'elles avaient la vie, mais elles avaient été éclairées et avaient goûté du don céleste. Elles avaient été baptisées et avaient les miracles du siècle à venir. Toutes ces choses étaient vraies à leur sujet, et pourtant elles étaient tombées. Elles avaient abandonné Christ. Elles l'avaient laissé pour retourner au judaïsme, afin de tranquilliser leur conscience à l'égard de Dieu. Lorsque tel était le cas, l'apôtre dit, « Il est impossible qu'ils soient renouvelés encore à la repentance. » Ils sont des apostats, et c'est là le point en question. Car, sur une grande échelle, ce sera par un moyen semblable que sera amenée la sentence plus terrible qui doit inévitablement suivre le reniement du christianisme. Et il en est nécessairement ainsi, car Dieu n'a rien de meilleur à introduire, rien par quoi il puisse agir sur l'homme lorsqu'il rejette la révélation chrétienne et la grâce de Christ. Ces Galates étaient convaincus par cela même. Ils savaient qu'ils n'avaient rien entendu au sujet de la loi, et pourtant ils avaient reçu l'Esprit personnellement. Ils devaient considérer ce qu'implique la réception du Saint-Esprit, que ce n'est pas seulement une manifestation de puissance, mais la bénédiction plus profonde qui demeure maintenant. Et quelle bonté de Dieu qu'il en soit ainsi, qu'il n'ait pas retiré la source de la jouissance de Christ. Nous aurions pu penser que, vu la profondeur de la chute, s'il était probable que quelque chose doive être retiré, ce serait cette jouissance de Christ. Lors de la Pentecôte, les saints étaient tous, ou en tout cas la plupart, de petits enfants. C'est ne pas comprendre moralement ce jour-là, ni l'état antérieur des disciples, que de supposer que le merveilleux déploiement de puissance qui eut lieu alors montrait qu'il avait été accordé à cette époque, et en ce lieu une jouissance de Christ plus profonde qu'en d'autres lieux plus tard. Et de même, on voit maintenant qu'il y a le danger de s'imaginer que le temps de la plus riche moisson possible de paix et de joie est au moment de la conversion. Tandis qu'au mieux, c'est la jouissance qu'a un petit enfant. Il y a un sentiment profond de la délivrance, mais le sentiment de la délivrance n'est pas nécessairement Christ, ni la manière la plus douce de goûter Christ. Il est en relation avec notre sentiment de l'amour de Christ. Et c'est assurément notre privilège d'en jouir. Mais il y a une connaissance de Christ lui-même, et une joie trouvée en lui-même, qui est une chose plus profonde encore, et elle est basée sur une connaissance croissante de sa gloire personnelle et de son amour à lui, aussi bien que de son œuvre. Ces Galates en venaient à se placer sous la loi, et l'apôtre met devant eux la folie de tout cela. Ils cherchaient à se rendre parfaits par la chair. C'est là simplement la nature qui s'occupe activement de ce qui concerne le moi et non du développement de la connaissance de Christ. Il y avait, selon leur pensée, certaines choses qu'il leur était tout à fait nécessaire de faire. « Eh bien, leur réplique-t-il, c'est la chair. Avez-vous tant souffert en vain ? » Puis il montre que tout avait été sur le principe de l'ouïe de la foi, et il remonte à Abraham lui-même. Comme Abraham a cru Dieu et cela lui fut compté à justice. Il y a une grande force dans cette allusion à Abraham, car tout juif en appellerait à lui comme étant la racine de la circoncision. et la manière selon laquelle la loi avait été introduite parmi les Galates était en attachant une grande importance au droit d'être circoncis. Il semblerait que l'argument de ces hommes qui judaïsaient était le suivant. Vous ne pouvez avoir la bénédiction intérieure de la circoncision sans passer par sa forme extérieure. L'apôtre en appelle à Abraham pour prouver le contraire. Dans le cas d'Abraham, c'était une question de foi et non de loi ni de circoncision. Quand est-ce qu'Abraham crut Dieu et que cela lui fut compté à justice? Avant que la circoncision ait été introduite, car ce rite, comme cela est évident d'après l'histoire, fut prescrit, cela nous est expressément déclaré, après qu'Abraham avait cru Dieu et que Dieu le lui avait compté à justice. Sachez donc, continue-t-il, que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Telle est la conclusion qu'il en tire. Si Abraham a été introduit dans cette position de bénédiction par la foi, toute sa semence est bénie d'une manière semblable. Il commence par la semence naturelle, le juif, mais il introduit aussi les gentils. Or l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi toutes les nations seront bénies, de sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Nous verrons plus tard qu'il ne raisonne pas seulement d'après la promesse faite à Abraham lui-même, mais d'après celle qui a été faite à sa semence. Mais ici, il omet à dessein la semence. Il fait allusion à la première promesse faite à Abraham, parce que, quand elle fut faite, il n'y avait aucune pensée de circoncision. Il dit, « Or l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. » Cela montrait qu'il serait béni comme gentil, et non en devenant virtuellement juif, car la bénédiction leur parviendrait comme gentil. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Il termine ici cette partie du sujet, prouvant que la bénédiction dépendait de la foi et non des œuvres de loi, ni de la circoncision. Abraham fut béni sur le principe de la foi, et Dieu lui avait promis, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre, non pas dans la circoncision, mais en Abraham. » Nous voyons ainsi que, dans le cas d'Abraham, le principe d'une promesse est introduit. En fait, Abraham était un idolâtre, à l'époque où Dieu se révéla à lui, comme nous l'apprenons par Josué 24. Et la véritable bénédiction est toujours l'effet de cette révélation que Dieu fait de lui-même à l'âme. L'effet de cette révélation à Abraham, c'est qu'il quitte son pays et la maison de son père, et qu'il part, obéissant à la parole de Dieu, ne sachant où il allait. Il comptait sur la bonté de Dieu envers son âme. Il reçoit de Dieu la promesse de la bénédiction, et de la bénédiction pour d'autres aussi. Comme il fut dit, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et voici comment la chose a lieu. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Et il raisonne ainsi. Comme la bénédiction dans ce cas dépendait de la foi, il en est de même de la vôtre. Puis, dans une phrase très solennelle et absolue, qui porte sur elle le cachet même de Dieu, il ajoute, « Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Oh, si ceux qui veulent être docteurs de la loi comprenaient seulement une parole comme celle-là, il n'est pas dit que tous ceux qui ont violé la loi sont sous malédiction, mais toutes les personnes qui prennent position sur un terrain légal. Quiconque essaie de plaire à Dieu sur ce principe-là est tombé sous malédiction. Et pourquoi? Parce qu'il y a une chose telle que le péché. Et si l'homme, avec le péché sur lui ou en lui, essaie de rendre sa cause meilleure par la loi, quant à l'application du principe, il est sous la malédiction de la loi. Nous n'avons pas besoin d'attendre la preuve comme une question de fait. Celui qui prend cette place est condamné. Si Dieu devait agir avec les hommes comme ils agissent avec Dieu, ils devraient être condamnés à mort, et il ne pourrait y avoir pour eux ni secours ni délivrance. La régénération ne délivre pas et ne saurait être alléguée comme défense ou excuse. S'ils sont gouvernés par la loi comme leur règle, elle condamne nécessairement ceux qui la violent. Rien ne peut être plus décisif. Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction, etc. Ainsi donc, si je me place sur ce terrain, il n'y a pas la moindre ressource en cas de manquement, à moins que je ne fasse valoir aussi les sacrifices et les offrandes pour le péché. Si je ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, si je ne réussis pas à les observer toutes sans faire de faute, je suis maudit. Une telle position peut-elle jamais convenir à un chrétien? Impossible. Et pour cette raison, tout est inconséquence chez ceux qui parlent ainsi, car en réalité ils se reposent après tout sur Christ. Mais que dit Paul? Or, que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que, comme l'annonce un autre passage de l'Écriture, le juste vivra de foi. C'est une erreur complète de supposer que c'est par la loi, comme en étant la source ou la puissance ou la mesure. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Au verset 13, l'apôtre termine cette partie du sujet et montre que notre position comme chrétien est entièrement différente. Il commence par le juif. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que… » etc. Il y a une grande bénédiction à voir que de même qu'il est dit en 2 Corinthiens 5, verset 21, que Christ a été fait péché pour nous, de même il est dit ici qu'il est devenu malédiction pour nous.
2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. »
Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul se place simplement avec les croyants. Il n'établit pas un contraste entre nous et les Juifs. Par conséquent, le « nous » dans les Corinthiens comprend tous. Mais ici, le « nous » signifie la partie juive des croyants, car il parle ensuite des gentils d'une manière particulière et distincte. Afin que la bénédiction d'Abraham parvînt aux nations dans le Christ Jésus. Puis il les met tous ensemble, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de l'Esprit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le « nous » ici est emphatique, tandis qu'au verset 14, le mot « nous » ne l'est pas du tout. Mais il est employé d'une manière générale pour désigner tous les croyants, soit juifs, soit gentils. Ainsi donc, ce point-là est très clair. D'abord, s'il s'agissait de juifs, il dirait « Nous avions également besoin de Christ, parce que nous n'avions pas persévéré dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Et Christ est venu, et nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Puis, quant à vous, gentils, vous qui n'avez jamais rien eu à faire avec la loi, cherchez-vous à être bénis sur le terrain même où nous ne pouvons attendre que malédiction? L'apôtre cite un passage de Deutéronome 27, où nous trouvons une révélation très frappante comme un autre l'a bien remarqué. Une moitié des tribus devait se tenir sur une montagne pour bénir, et l'autre moitié sur une autre montagne pour maudire. Mais quand, immédiatement après, l'ordonnance est proclamée, les malédictions seules sont mentionnées, et il n'y a aucune bénédiction. Pourquoi ? Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Dieu avait parlé de la division en deux des tribus pour bénir et pour maudire. Mais quand vous en venez aux faits, les malédictions seules paraissent et non les bénédictions. Quelle grande et solennelle confirmation de la vérité que nous venons de considérer. Dieu ne prévoyait positivement pas que quiconque obtienne la bénédiction ainsi. Aussi certainement qu'il s'était placé sur un terrain légal, il ne pouvait obtenir qu'une malédiction, et par conséquent on n'entend que les malédictions. L'apôtre termine donc d'une manière triomphante cette partie du sujet. Le croyant, après qu'il en est venu à accepter pleinement la malédiction de la loi à cause du péché, peut alors dire, par la grâce de Dieu, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ce n'est pas seulement qu'il est devenu maudit pour nous, mais malédiction. Qu'est-ce qui pouvait bien montrer avec plus de force combien il s'est identifié pleinement avec cette condition vue comme un tout? La conséquence est que ceux qu'il a représentés en grâce en sont complètement délivrés. Bien plus, la bénédiction, du moment qu'elle prend son cours, déborde bien au-delà des anciennes limites. Aussi dit-il, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus. Avant tout, il fallait que Dieu ôte la malédiction, et quand cela fut accompli, selon la sainteté divine pour ces Juifs croyants, la même croix de Christ fit déborder la miséricorde envers les gentils. Christ avait accompli l'œuvre de la rédemption, et quoique son application première soit pour le Juif, toutefois son efficace et sa gloire ne pouvait assurément pas demeurer cachée. La bénédiction d'Abraham parvient aux gentils dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Telle est la conclusion de l'argument fondé sur la promesse de l'Esprit. Et voici les points qui sont décidés. La loi n'a jamais procuré une bénédiction à ceux qui étaient sous elle, même s'ils étaient la semence d'Abraham, et cela parce qu'ils étaient pécheurs. Et elle ne fut jamais le moyen pour eux de recevoir le Saint-Esprit comme la puissance pour jouir de Christ. D'un autre côté, l'ouïe de la foi, comme pour Abraham lui-même autrefois, est l'unique et simple moyen que le Saint-Esprit emploie pour toute paix et pour toute bénédiction réelle. Et cela vaut, par la rédemption, non seulement pour le Juif orgueilleux mais maudit, mais même pour le pauvre gentil, maintenant expressément considéré dans la bénédiction, et cela dans sa partie la plus riche, la promesse de l'Esprit. Dans la première partie du chapitre, nous avons vu le contraste entre la portion de la foi et celle de la loi. Nous avons vu que la loi amenait nécessairement une malédiction, non pas que la loi soit mauvaise, mais parce que les hommes, parce qu'Israël, étaient pécheurs. La loi donc, précisément parce qu'elle est sainte, est juste, est bonne, devait condamner ceux qui n'étaient pas bons mais mauvais. Pour de tels, par conséquent, la conclusion de la loi était une malédiction. C'était la loi de Dieu, mais tout ce que sa loi pouvait ou devait procurer à des pécheurs était condamnation et malédiction. D'un autre côté, Dieu aime à bénir. Comment ces choses peuvent-elles être ? Comment était-il possible que Dieu puisse introduire une bénédiction pour l'homme, pauvre pécheur perdu ? La réponse est que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Abraham a reçu une bénédiction et non une malédiction, et cela à cause de la foi et non de la loi. L'apôtre prouve d'après cela que puisque la loi, quelque bonne d'ailleurs qu'elle soit en elle-même, ne peut amener que malédiction sur toute âme qui prend ce terrain dans ses rapports avec Dieu, tous ceux qui sont sous le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Rien ne pouvait être plus universel ni plus décisif. La loi n'implique que malédiction sur tout enfant d'Adam qui essaie de se placer sur ce terrain comme moyen de relation avec Dieu. Est-ce que je cherche à obéir à Dieu en promettant de le faire afin d'obtenir de lui une bénédiction? Je ne gagne qu'une malédiction. Je devrais obéir. Mais comme je ne suis, moi, qu'un pécheur, l'effet de la loi est de manifester mon péché et de me maudire. D'un autre côté, la foi m'introduit dans une bénédiction, même dans toute bénédiction, par la grâce de Dieu. Nous arrivons maintenant à la question de la promesse, et c'est une chose très différente. La foi implique en tout cas la condition de l'âme dans la personne qui croit. La promesse regarde aux voies de Dieu. Et bien que nous ayons vu que ceux qui ont la foi sont les seuls qui reçoivent la bénédiction, et non ceux qui essaient d'accomplir la loi, nous devons considérer les promesses de Dieu aussi bien que la loi donnée. Frères, je parle selon l'homme. Personne n'annule une alliance qui est confirmée, même celle d'un homme ni n'y ajoute. Or c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence, non pas la loi donnée. Abraham ne savait rien de la loi, et sa semence ou son fils pas davantage. Et pourtant il ne pouvait nier qu'Abraham a obtenu la bénédiction. De sorte qu'ici il est placé sur un nouveau terrain. Ce n'est pas seulement que des âmes qui ont la foi recevront la bénédiction, mais pourquoi ne pas avoir la foi en la loi aussi? La dernière partie du chapitre traite cette question et montre que Dieu a donné des promesses. Et la question est, comment réconcilier la loi de Dieu avec ses promesses? Dans quel but a-t-il donné ces deux choses? Étaient-elles destinées à produire le même résultat? Étaient-elles sur le même principe? Le Saint-Esprit règle ces questions. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. Il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta semence qui est Christ. Il est clair qu'il est fait allusion ici à deux occasions distinctes et remarquables dans l'histoire d'Abraham. Dans la première de ces deux occasions, il s'agissait d'Abraham seul, Genèse 12. Dans la seconde, la promesse est à Isaac, ou plutôt dans Isaac seul, Genèse 22. Dans ce dernier chapitre, il est question de la semence nombreuse et de la seule semence. Dieu rattache à la semence nombreuse la possession de la porte de ses ennemis, c'est-à-dire la suprématie juive. Mais ce n'est pas là ce que l'on obtient comme chrétien. Je ne désire pas que mes ennemis soient renversés, mais plutôt qu'ils soient amenés à Christ. Mais les Juifs, comme tels, auront bientôt non seulement les bénédictions par Christ, mais leurs ennemis assujettis. Israël sera élevé sur la terre, ce que Dieu n'a jamais promis aux gentils. Dans Genèse 22, les deux choses sont tout à fait distinctes. Lorsqu'il est parlé de la semence sans allusion au nombre, la bénédiction des gentils intervient. Mais quand il est dit qu'elle sera multipliée comme les étoiles et comme le sable, alors ce qui caractérise la bénédiction, c'est sans équivoque la préséance juive. Tel est, je crois, l'argument de l'apôtre. Lorsqu'il s'agit de Christ, typifié par Isaac, c'est simplement ta semence, sans un mot de la semence innombrable comme les étoiles ou le sable. Or c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence, savoir celle de la bénédiction des gentils, et non pas simplement de l'assujettissement des gentils. Les promesses ont été faites d'abord à Abraham, et puis confirmées à sa semence. Il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta semence, qui est Christ. Il prend Christ comme étant celui qui était désigné par Isaac. Permettez-moi de rappeler les circonstances dans lesquelles Dieu fit la promesse en Isaac, comme type de Christ. Dans Genèse 22, Isaac est sur le point d'être offert comme sacrifice, et Abraham ne savait qu'une chose jusqu'au dernier moment, que son fils devait mourir. Pendant 3 jours, Isaac fut, pour ainsi dire, sous la sentence de mort. Abraham avait confiance en Dieu, qui avait promis qu'en Isaac il posséderait le pays, et il était par conséquent certain qu'en ce même Isaac, la promesse devait être accomplie. Il n'était pas question de ce que Sarah aurait un autre fils, mais de ce fils-là, de son fils unique. Il était donc parfaitement assuré que Dieu le ressusciterait et le lui rendrait pour être le chef de la famille juive. Nous avons ici un type magnifique de Dieu n'épargnant pas son propre fils. C'était tout comme si Abraham avait offert son fils, et Dieu non seulement rendit Isaac, mais en ce moment et en ce lieu même, il donna la promesse. Toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. C'est ainsi, en Christ ressuscité d'entre les morts, que la bénédiction nous parvient. Christ, mort et ressuscité, est parfaitement libre de bénir les gentils. Tant qu'il était simplement vivant sur la terre, il dit « Je ne suis envoyé que brebis perdue de la maison d'Israël ». Mais après sa résurrection, tout est changé. En conséquence, il donne mandat à ses disciples. Allez donc, et faites disciples toutes les nations. Et de même, il prédit que l'évangile serait prêché dans toutes les nations. L'apôtre attire l'attention sur le fait que cet oracle ancien ne se rattache pas à la semence nombreuse, quand Dieu parlait de bénir les gentils, mais à la seule semence, savoir Isaac, comme type de Christ, et de Christ après qu'il avait été sous la mort et qu'il avait passé dans la résurrection. L'importance de cela est immense, parce que pendant que Christ était sur la terre, il était lui-même sous la loi. Ressuscité d'entre les morts, qu'avait-il à faire avec la loi? La loi ne touche pas un homme quand il est mort. L'argument de l'apôtre, c'est que le chrétien appartient à Christ en résurrection. Quand quelqu'un est baptisé pour Christ, c'est ce qu'il confesse. J'appartiens à Christ mort et ressuscité, ayant été tiré hors de mon ancienne position de juif ou de gentil. Les juifs avaient affaire à un Messie qui devait régner sur eux sur la terre. Les gentils, en ce jour-là, seront la queue et non la tête. Et des rois seront les nourriciers de Sion, et des princesses ses nourrices, se prosternant devant elle le visage contre terre et léchant la poussière des pieds d'Israël. Mais nous, chrétiens, nous commençons par la mort et la résurrection de Christ. Toutes nos bénédictions sont en Christ ressuscité d'entre les morts. Or je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans après n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. Dieu a pris soin qu'entre la promesse donnée à Abraham et à Isaac et la loi, il s'écoule une période de plus de 4 siècles. S'il avait donné la loi peu de temps après, ils auraient pu dire que tout n'était qu'une seule et même chose. Mais comment avoir cette pensée, vu que 430 ans sont intervenus? La promesse a son objet propre et spécial, et la loi a aussi son but, et nous ne devons pas mêler ces deux choses ensemble. Ce n'est pas que nous devions mettre de côté soit l'une, soit l'autre. Au contraire, je maintiens que nul homme n'a une juste appréciation des promesses de Dieu qui pourrait mépriser sa loi. Je reconnais la valeur immense de la loi, mais quel est son objet? Nous trouvons la réponse ici, et nous ne sommes pas laissés à nos propres conjectures. L'alliance de la loi, qui intervint 430 ans après que la promesse fut donnée à Abraham, ne peut annuler ce que Dieu avait dit auparavant. Si un homme, en présentant une récompense, y attache une condition, tout est bien. Mais supposons que vous disiez à un autre « J'ai l'intention de vous laisser ma maison avec le jardin, sans ajouter aucune condition ». Si, après 1 an ou 2, vous disiez à cet homme, Il faut que vous me payiez telle somme pour la maison et le jardin. » Il pourrait répondre, « Que voulez-vous dire ? Vous repentez-vous de votre promesse ? Vous m'avez donné la propriété sans condition, et maintenant vous m'appelez à payer ? » Il y avait la promesse absolue de Dieu à Abraham. Elle doit demeurer intacte à toujours. Mais 430 ans après, des conditions interviennent. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, vous me serez, etc. Exode 19, versets 5 et 6. Ce fut alors que Dieu fit dépendre la bénédiction de l'obéissance. Est-ce donc que Dieu met un principe en opposition avec un autre ? En aucune façon. Il permit ce laps de temps, notamment pour montrer que les deux choses sont parfaitement distinctes, comme aussi leur objet. Ainsi donc, selon le raisonnement de l'apôtre ici, le principe de condition qui fut introduit avec la loi ne peut pas annuler celui de la grâce qui fut introduit avec la promesse. Quand Dieu dit à Abraham, « Je te donne, et à ta semence après toi, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle », il n'ajouta point, « Si vous faites ceci ou cela », l'Éternel devait lui donner certaines bénédictions qui dépendaient entièrement de la bonté de Dieu et de sa faveur non méritée. Telle était la manière d'agir de Dieu dans les promesses. Et dans la loi, tout dépendait de son observation par celui qui était placé sous elle. La voie de la loi est pour le juste une bénédiction, et pour le coupable une malédiction. Celui qui aura fait ces choses vivra par elles. Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. L'apôtre prouve ensuite que si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse. Si un homme possède une chose moyennant ce qu'il a donné ou fait pour l'avoir, ce n'est plus sur le principe de promesse, mais sur le pied de ce qu'il mérite. C'est comme une personne qui fait tant d'ouvrages pour tant de salaires. Sans doute, si un maître fait un présent à son serviteur, l'homme en est reconnaissant. Mais quand il s'agit uniquement d'un équivalent pour de l'ouvrage positivement accompli, c'est clairement une affaire de dette et non de don. La loi est le principe de ce qui est dû, s'il pouvait se trouver une telle chose parmi les hommes. Mais tout ce qui fut mérité fut une malédiction, parce que l'homme était pécheur. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse, et non par la loi. Alors vient la question, à quoi bon la loi? Si Dieu voulait donner l'héritage par promesse, pourquoi introduire la loi? Comme c'est là une question des plus importantes, je désire y attirer particulièrement l'attention. Si vous examinez les voies de Dieu avec son peuple dans les premiers temps, vous verrez que Dieu leur promet une bénédiction et qu'ils la prennent de la main de Dieu, sans regarder à eux-mêmes pour voir s'ils la méritent ou non. Cette confiance, qui ne met rien en question, est une chose très bénie. Mais ce n'est pas pour le bien de l'homme de ne pas connaître ce qu'il est. Il est d'une grande importance que j'apprenne quel est réellement mon état. Or, l'objet de la loi a été de manifester la vraie condition d'âme du pécheur, nullement de l'introduire dans la bénédiction, mais de manifester la terrible ruine dans laquelle l'homme était tombé par le péché. La loi n'était pas destinée à être la règle de vie. Elle est certes plutôt la règle de mort. Si l'homme n'avait pas une chose telle que le péché, elle pourrait être la règle de vie. Mais puisqu'il est pécheur, c'est une fausse désignation absurde que d'appeler la loi la règle de vie. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions. Il n'est pas dit à cause des péchés. Dieu n'aurait jamais voulu faire quoi que ce soit pour rendre l'homme pécheur. Mais elle a été ajoutée à cause des transgressions. Quelle est la différence? Le péché est dans tout enfant d'Adam. Le péché était dans l'homme avant la loi, autant qu'après. Quand le monde entier se fut corrompu, quand toute chair fut devenue si pleine de violence que Dieu fut obligé de la juger par le déluge, il n'est que trop clair qu'ils étaient tous pécheurs. Après que Dieu eut donné la loi à Israël, ils n'étaient plus simplement des pécheurs, mais ils devinrent des transgresseurs. Rebelles contre l'autorité de Dieu, ils devinrent des violateurs de fait de sa loi. La loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés. Et qui a jamais été rendu juste par la loi? Est-il un honnête homme, celui qui ne s'abstient de prendre votre montre que par la crainte d'être puni? La seule personne réellement honnête, c'est celle qui a la crainte de Dieu devant ses yeux. La loi a pour effet de punir ceux qui la violent, mais elle n'est pas ce qui rend un homme honnête, même dans un sens humain, encore moins dans le sens divin. Par la foi de Christ, on devient un homme nouveau, on possède une nature nouvelle, qui est dépendante et obéissante, qui aime faire la volonté de Dieu, parce qu'il le désire, et non simplement par crainte d'aller en enfer. Il est bien juste d'être conscient que nous méritons l'enfer, mais si c'était là la source du motif pour obéir, pourrait-on dire d'une telle personne qu'elle est réellement convertie? Ici donc, nous avons l'objet de la loi, c'est de prouver que les hommes étaient pécheurs en manifestant le fait que ceux qui étaient sous la loi la violaient et méritaient sa malédiction. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât, non pas exactement afin que le péché abondât. Dieu ne pouvait jamais faire cela. Mais les hommes étant déjà pécheurs, la loi, par sa sainteté même, provoqua le péché de manière à le rendre manifeste pour eux et pour tous. Les enfants d'Israël étaient pécheurs comme tous les autres, mais ils ne voulaient pas reconnaître leur péché, et par conséquent Dieu introduisit la loi par Moïse. Avant les 10 commandements, ils auraient pu dire « Nous ne voyons pas de mal de se prosterner devant des images taillées, ou de ne pas observer le jour du sabbat. » La loi suffisait pour laisser un Israélite sans excuse. Ainsi donc, et c'est sur quoi l'apôtre insiste, la loi n'est pas pour le juste, bien que ce soit ainsi qu'on l'applique de nos jours, c'est-à-dire en faisant une règle de vie. Mais alors, outre la justification qu'il procure aux croyants, Christ est le seul moyen de le rendre juste et de le garder ainsi, ou bien de restaurer l'âme. Il n'y a aucune autre manière efficace. Tout comme Christ est la vie et la vérité, il est aussi le chemin. Il n'y a ni sentier ni puissance de justice et de sainteté, sinon Christ révélé par le Saint-Esprit. Si vous prenez la loi en même temps que Christ, vous devenez au moins à moitié juif. Nous sommes appelés à regarder à Christ et à Christ seul, 2 Corinthiens 3, comme à celui qui crée et façonne et constitue chaque particule de justice que le chrétien possède. Ainsi, l'apôtre prie pour les Philippiens afin qu'ils soient de plus en plus remplis du fruit de la justice, etc. L'homme naturel consentirait à reconnaître la nécessité des œuvres de justice qui sont exigées par la loi, mais il ne sait rien de ce fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. La loi était la règle de mort pour un pécheur, Christ est la règle de vie pour un saint. Pourquoi donc la loi? Chacun devrait admettre, et le but et les limites présentées ici. La loi a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la semence, c'est-à-dire Christ, à laquelle la promesse est faite. Il plut à Dieu d'employer cette plateforme négativement, du moins pour un temps. Et maintenant, la semence est venue, et tout cela a disparu pour le chrétien. La loi est de toute importance pour convaincre le pécheur. Elle est la mesure de ce qu'un homme pécheur devrait faire pour Dieu. Mais elle n'est ni le reflet de Dieu, ni le modèle pour les saints. Christ est l'un et l'autre, et Christ seul. En outre, elle a été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Cela est pour montrer le contraste avec la promesse, qui était directe et immédiate entre Dieu et l'homme, sans l'intervention des anges ni d'aucune simple créature comme médiateur. Dans le cas de la loi, la médiation par le moyen d'une créature est mise en avant. De là l'immense supériorité des promesses, comme comparées avec la loi. tout parlait de distance entre Dieu et le peuple. Mais dans les promesses, Dieu vient, parle, agit personnellement et dans l'amour. Il a aussi directement affaire à toute âme convertie aujourd'hui, qu'il lutte avec Abraham. Bien plus, maintenant que la rédemption a été effectuée et que Christ est ressuscité, nous avons affaire à Dieu d'une manière encore plus intime. Puis il ajoute, « Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. Sous la loi, vous avez Dieu et l'homme, comme les deux parties contractantes, et vous avez aussi un médiateur entre les deux. Moïse se tenait ainsi entre Dieu et des hommes. Et quel fut le résultat? Du côté de Dieu, tout était ferme et sûr, et l'homme faillit. Et il en fut ainsi, et il en est ainsi, et il doit en être ainsi. Et cela ne vient pas de quelque défaut dans la loi, mais de la culpabilité de l'homme et du mal qui est en lui. La loi est comme un pont qui peut avoir toute la force qu'on peut désirer, mais qui à un bout ne repose sur aucun fondement. Il ne peut y avoir qu'un résultat. Il en est de même de l'épreuve de l'homme sous la loi. La loi ne dépend pas de Dieu seul, sinon en ce qu'il exige. Mais, grâces en soient rendues à Dieu, la promesse dépend de lui seul. Sous la loi, l'homme est, dans un sens, l'acteur principal. C'est lui qui rend à Dieu, et non Dieu à l'homme. Tandis que, quand Dieu a promis le pays à Abraham, il ne dit pas « Cela doit dépendre de ce que tu feras ». C'était son propre don, gratuit et absolu. Dans la loi, il y a deux parties, et la chose entière tombe en pièces, parce que l'homme est celui dont tout dépend pratiquement. Et comment compter sur lui? Dans la promesse, il n'y a qu'une seule partie, et rien n'y peut porter atteinte, parce que Dieu ne peut ni faillir, ni mentir. Sa promesse doit s'accomplir. Voici donc le raisonnement final de l'apôtre. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, c'est-à-dire, lorsqu'une médiation légale est requise, il doit nécessairement y avoir deux parties, dont l'une est le pécheur, et ainsi tout est perdu. Mais Dieu est un seul. Tel est le caractère et la force de la promesse. Dieu est seul. Il accomplit tout ce qu'il dit, et le croyant a uniquement à rendre grâce, à jouir de la bénédiction, et à chercher à marcher d'une manière qui en soit digne, et qui y réponde. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Qu'ainsi n'advienne! Car s'il avait été donné une loi qui eût le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi. Mais l'Écriture a renfermé toute chose sous le péché. C'est là qu'en étaient les enfants d'Israël, et la loi les avait tous renfermés ensemble sous le péché. Et cela, afin que la promesse, sur le principe de la foi en Jésus-Christ, fût donnée à ceux qui croient. Non pas aux Juifs comme tels, mais à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, et non pas pour nous conduire à Christ. Le sens du passage est que la loi était un conducteur agissant avec ses Juifs jusqu'à ce que Christ vînt. Comme il avait été dit auparavant, elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la semence à laquelle la promesse est faite. Il ne s'agit pas d'amener des personnes maintenant à Christ. L'effet de la loi est plutôt d'amener la mort et la condamnation, comme cela nous est si clairement dit ailleurs. Dieu peut permettre que des personnes viennent ainsi sous la sentence de mort, et ensuite, par Christ, les en retirer. Mais nul ne peut dire qu'une puissance qui tue est en elle-même le moyen d'amener des personnes à Christ. La loi a été notre conducteur. Elle fit l'office de l'esclave qui avait la charge des enfants en bas âge. Elle agissait sévèrement avec ceux qui étaient sous elle jusqu'à ce que Christ vînt. Les Galates étaient des gentils qui n'avaient jamais été sous la loi, auxquels Paul décrit la manière dont Dieu avait agi avec les Juifs qui étaient sous la loi. En parlant de ces derniers, il dit « La loi a été notre, non pas votre, conducteur jusqu'à Christ. Lorsque Christ vint, il y eut un nouvel objet manifesté, et le processus négatif de la discipline légale prit fin, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. La loi faisait sentir aux âmes leur état, mais Dieu ouvrait leurs yeux, pendant qu'ils étaient dans cet état, pour voir que la seule espérance de justice était en Christ. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur. Même les Juifs qui avaient cru n'étaient plus sous la loi. Du moment que Christ leur avait été révélé, ils cessaient d'être sous la domination de la loi, et c'était à Christ qu'ils devaient leur nouvelle soumission. Christ est le maître et le seigneur du chrétien. Le Juif avait eu la loi pour son tuteur. Après avoir reçu Christ, l'office de la loi était terminé, et il entrait dans un domaine tout nouveau. Observez le changement remarquable depuis le verset 26. Ce n'est plus « nous », mais « vous », car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Maintenant, il s'adresse aux Galates qui avaient naturellement été pécheurs d'entre les nations, et pourtant ils jouissaient de l'intimité de fils de Dieu. Voici ce que veut dire son langage. Vous êtes introduits dans cette relation élevée par la foi dans le Christ Jésus, sans l'intervention de la loi, laquelle, après tout, s'occupe de gens qui sont esclaves, ou du moins traite ses sujets comme s'ils étaient esclaves. Paul ne prêchait pas la loi d'abord et Christ ensuite, mais plutôt Jésus et la résurrection. C'était là la somme et la substance de sa prédication. Et c'est ainsi que ces Galates l'avaient d'abord reçu. Ils étaient tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, gentils aussi bien que juifs. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Le grand point de tout l'argument, c'était que la semence était ressuscitée, la semence Isaac, après qu'il avait été désigné pour mourir et qu'il avait été réellement sous le couteau. Mais maintenant, il était ressuscité d'entre les morts en figure pour montrer que c'est là la condition dans laquelle nous sommes admis, nous gentils, comme ayant affaire à Christ. Christ était-il sous la loi quand il est ressuscité d'entre les morts? Absolument pas. Il en est de même, dit l'apôtre, de nous chrétiens maintenant. Vous n'avez rien à faire avec le conducteur juif. La foi est venue tant pour nous juifs que pour vous gentils, vous êtes devenus fils de Dieu sans passer du tout sous la loi. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Savez-vous ce que signifiait votre baptême? Qu'est-ce qu'un homme confesse quand il est baptisé? Qu'il appartient à un sauveur qui est mort et ressuscité. L'apôtre dit ailleurs, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort ? » Et la mort de Christ est ce qui brise pour toujours la relation même d'un juif avec la loi. Jusqu'à la mort, la loi avait un juste droit sur le juif. Mais du moment qu'il a confessé Jésus mort et ressuscité, le juif même en est aussitôt délivré et est passé dans une condition entièrement nouvelle. Ayant un sauveur qui est ressuscité d'entre les morts pour sa vie et son Seigneur, son affaire est de marcher comme un homme qui lui est uni. Le lien avec l'ancien mari est brisé, et il est à un autre. S'il essayait après cela d'avoir à la fois Christ et la loi, ce serait comme une femme qui aurait deux maris, c'est-à-dire un adultère spirituel. L'effet aussi en est bien palpable. Qui n'a pas vu un chrétien un jour joyeux, le lendemain très abattu dans son esprit, n'étant pas sûr d'avoir la vie éternelle ou non, tremblant à la pensée de la venue du Seigneur. Et pourtant, ce même homme admire Christ, et l'aime, et l'adore. D'où vient cela? Il ne sait ce que c'est que d'être mort à la loi. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il soit dans un état si misérable. La loi l'accable mortellement, et il ne connaît Christ que tout juste assez pour garder sa tête au-dessus de l'eau, mais avec la tendance continuelle à être submergé, qu'il est bon pour son âme d'apprendre que Dieu a brisé par la mort de Christ tout lien de cette nature. Mon baptême même est la confession que, quand même j'aurais été un juif, je suis mort à la loi, étant mort dans ce en quoi nous étions tenus. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Naturellement, ce serait un état bien malheureux si, étant morts à la loi, nous n'étions pas à un autre. Combien grand serait le danger de penser qu'on a la liberté pour faire ce qu'on aime. Mais si j'appartiens à Christ, alors viennent les nouveaux sentiments propres à une âme amenée ainsi près de lui. Maintenant, j'appartiens à Christ et je dois faire ce qu'il aime. Notre mari nous donne la liberté pour faire sa volonté, non pour faire la nôtre, afin que nous portions du fruit pour Dieu. C'est là ce que le baptême présente dans un chrétien. C'est la confession de la mort et de la résurrection de Christ. Le croyant devrait donc savoir qu'il en a fini avec la loi et qu'il est appelé à vivre à Dieu. Car vous tous, qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ, non pas la loi, mais Christ. L'objet de tout cela, c'est de montrer que, quelque importante que soit la loi pour mettre les transgressions des personnes clairement devant elles, le chrétien, pourtant, maintenant qu'il a Christ, a déjà confessé ses péchés et a affaire avec un tout autre état de choses. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni mâle ni femelle. Paul considère les grandes distinctions naturelles entre les hommes et il montre que ces choses ne les caractérisaient pas comme chrétiens. La seule chose qui me marque d'une manière distinctive comme telle, c'est que j'ai Christ et que j'ai revêtu Christ. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas à passer par la circoncision ou par aucun autre rite de la loi pour obtenir les promesses. Le Saint-Esprit introduit dans ses promesses par la possession de Christ. Si vous vous efforcez de les gagner sur le principe de la loi, vous les perdez. Si vous recevez Christ, elles sont assurément à vous. Il est, lui, la vraie semence d'Abraham, et si j'ai Christ, j'ai toutes les promesses de Dieu. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous. Ainsi, vous voyez, il donne la dernière touche au grand argument du Saint-Esprit dans tout ce passage, savoir que le croyant d'entre les nations n'a rien du tout à faire avec la loi, comme moyen de bénédiction de la part de Dieu, qu'il peut user de la loi comme d'une arme contre les impies, mais qu'en Christ il en a fini avec la question de loi, qu'il est sorti d'une manière bien claire de tout cela, et que maintenant il est en Christ. Et si je suis là, j'ai tout ce que Christ peut donner. L'important, c'est de donner toute la gloire à Christ. La force du passage doit frapper tout esprit qui réfléchit en considérant ce qui se passe autour de lui dans le temps présent. Le mal contre lequel Paul les mettait en garde s'est maintenant généralisé. Sous une forme ou sous une autre, la loi est mêlée avec Christ. Et dans cet état de choses, vous voyez de pauvres chrétiens qui tâchent de garder les deux maris en même temps. Ce n'est pas quelque chose que nous dépeignons simplement par rapport à autrui, mais la plupart d'entre nous connaissent cela par expérience. Nous en avons éprouvé et la misère et la bénédiction d'en être délivrés. Et qu'il plaise à Dieu d'accorder la même délivrance à tous ceux de ses enfants qui n'ont jusqu'à présent goûté que la misère et non la délivrance.